La Ligue des droits et libertés vient de publier un document en collaboration avec la Fédération internationale pour les droits humains pour demander un encadrement plus strict de la clause dérogatoire. Et pour en parler, nous avons au bout du fil Laurence Guénette, coordonnatrice et porte-parole Ligue des droits et libertés. Ça va bien, Laurence?
Oui, merci, ça va bien. Merci de l'invitation.
Ben, merci à vous d'être là. Pour bien comprendre le débat, là, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi la clause dérogatoire et à quoi ça sert là, concrètement dans les lois au Québec?
Oui, tout à fait. Donc, au Québec, on a une charte québécoise des droits et libertés de la personne qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale à Québec il y a 50 ans maintenant. Donc, c'est une charte qui doit protéger les droits et libertés de tout le monde dans une perspective aussi d'égalité entre tout le monde. Et dans cette charte-là, il y a une disposition de dérogation qu'on appelle aussi clause dérogatoire ou des fois on entend clause nonobstant. Et dans le fond, cette disposition-là permet aux législateurs de déclarer des fois dans le cadre d'une loi que là, ma loi s'applique nonobstant ou dans peu importe les droits qui sont protégés à tel et tel et tel article. Donc, c'est comme une brèche, une petite porte de sortie qui permet parfois aux législateurs de ne pas respecter la Charte québécoise. On a aussi, vous savez, là, au niveau du Canada, on a la Charte canadienne aussi des droits de la personne qui s'applique aussi au Québec. Puis la Charte canadienne aussi, elle contient une disposition de dérogation qui peut être utilisée par le législateur. Donc là, l'exemple le plus connu, c'est celui de la loi sur la laïcité de l'État en 2019, dans lequel le gouvernement au pouvoir, qui était la CAQ à l'époque, a dérogé aux deux chartes, à la Charte québécoise et à la Charte canadienne. Donc, c'est vraiment une espèce de porte ouverte que le législateur a emprunté de plus en plus souvent, en fait, dans les dernières années, pour finalement protéger certaines lois qui bafouent les droits de certaines personnes au Québec, protéger ces lois-là d'être contestées devant les tribunaux. Et donc, aller de l'avant avec une loi malgré le fait qu'elle porte atteinte à certains droits et libertés.
Oui, c'est ça. Donc, vous avez pris position là, par rapport à ça là, pour bien mieux qu'on encadre là, cette clause-là. Ça bafoue les droits là, dans votre prise de position. Est-ce qu'on, concrètement pour les citoyens, qu'est-ce que ça change là, que le gouvernement utilise une clause dérogatoire au lieu de faire le parcours normal là?
Mm-hmm. Ben concrètement, là, si on pense à, par exemple, une Québécoise musulmane qui porte un signe religieux et qui a été affectée directement par la loi sur la laïcité en 2019, oui. Ce que ça change concrètement, c'est qu'elle a plus de recours devant les tribunaux. Donc, elle peut pas aller devant les tribunaux québécois et canadiens pour dire « mes droits sont bafoués par cette loi-là ». Moi, je veux contester la loi puis que mes droits soient entièrement rétablis. Donc là, ça, c'est les personnes qui ont été directement affectées depuis plusieurs années par cette loi-là, mais d'autres lois aussi qu'on a depuis 2025, là, projet de loi 94, le projet de loi 9 en ce moment. Mais la clause dérogatoire en tant que telle, dans l'état où elle est en ce moment, donc « free for all », si je me permets de dire en bon français, aucun encadrement, ça nous protège pas, personne au Québec, contre d'autres abus qui pourraient être mis en place par le gouvernement. Donc, par exemple, on peut penser aux droits des personnes de la diversité LGBTQI+, on peut penser aux droits des travailleurs et travailleuses syndiqués. C'est comme tous les droits auxquels c'est possible de déroger. Le gouvernement, il n'y a rien qui l'empêche éventuellement d'en abuser. En fait, il en abuse déjà dans le cadre des lois sur la soi-disant laïcité. Donc, c'est ça que ça change concrètement, là, pour un citoyen, une citoyenne, ce que ça signifie en ce moment, la clause dérogatoire en mode free for all, ouais. C'est vraiment qu'il n'y a plus rien. En fait, ça vide un peu la Charte québécoise de sa substance parce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui empêche le gouvernement qui est au pouvoir de bafouer nos droits. C'est vraiment ça concrètement. Donc, c'est un recul, c'est-à-dire que la clause dérogatoire, elle existe déjà depuis le début de la Charte québécoise. Mais c'est la première fois depuis quelques années qu'on voit au pouvoir un gouvernement qui en abuse et qui a dérogé déjà 4 fois en quelques années à peine, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant.
Oui, OK, oui, c'est ça. Puis à l'international, il y a des exemples là, de ce genre de mécanisme-là de baillons qui existent. Comment ils encadrent ça? C'est quoi nos options possibles si on regarde, les autres pays, là?
Oui, mais c'est surtout, nous, on a puisé surtout dans le droit international des droits humains.
Okay, ouais.
Donc, on est lié au Canada, au Québec, là, par des instruments internationaux de protection des droits, donc particulièrement le Pacte international sur les droits civils et politiques. Puis là, c'est de là qu'on a puisé des critères très stricts. Donc, ce qu'on nous dit, dans le fond, en droit international, c'est que on devrait presque jamais déroger au droit. Ça prend vraiment des circonstances exceptionnelles. Ça prend, en fait, un état d'urgence réel ou un danger public exceptionnel et urgent qui justifie qu'on ait besoin de suspendre certains droits et libertés. Donc ça, je vous dirais, c'est comme la circonstance d'abord que ça exige. Donc on peut imaginer une crise sanitaire, un événement climatique majeur, par exemple, ce genre de choses. À partir du moment où on a une situation comme ça, on a besoin que si on déroge aux droits, si on suspend les droits et libertés, ça soit proportionnel à ce que la situation exige. On a besoin que ce soit temporaire. Donc, ça veut dire que le gouvernement qui fait ça doit avoir pour intention de revenir à la normale dès que possible. Donc, de rétablir l'exercice des droits et libertés dès que possible. Ça ne peut pas être pour toujours.
OK. Un projet de loi, ça serait ça, qui aurait une durée déterminée pour des mesures, ce serait extrêmement particulières et spéciales.
Oui, puis dans le fond, c'est ça, avec un retour à la normale qui est prévu. Là,
oui,
dès que possible, on va rétablir, par exemple, la liberté de mouvement, ce genre de choses.
Oui.
L'autre affaire, puis ça, c'est vraiment très, très, très important, c'est qu'en vertu du droit international, donc c'est aussi les engagements que le Québec et le Canada ont pris à l'international, là, il y a certains droits auxquels on ne peut jamais déroger. Donc, on peut jamais déroger au droit à la vie, on peut jamais déroger à la liberté de religion, de conscience, on peut jamais déroger au droit à être traité avec humanité en cas d'arrestation, de détention. Donc, il y a certains droits comme ça, là, les droits à l'égalité également, on peut jamais déroger à ces droits-là. Il n'y a pas de situation d'urgence réelle qui justifie de déroger à ça. On appelle ça des droits intangibles. Donc, c'est pas possible de déroger. Par contre, tu sais, je mentionnais tantôt la liberté de circulation. Ça, c'est un exemple d'un droit auquel on pourrait avoir besoin de déroger pour une période temporaire parce qu'il y a une urgence extrême qui le justifie.
Oui.
Donc,
Oui, allez-y.
Ben non, c'était juste pour dire que pour ceux et celles qui nous écoutent, qui connaissent un peu la loi sur la laïcité de l'État, les autres lois qui ont utilisé les clauses dérogatoires dans les récentes années, et qui bafouent directement la liberté de conscience et de religion des Québécois, Québécoises, qui portent atteinte au droit à l'égalité, des femmes musulmanes en particulier, qui a des impacts sur le droit à un niveau de vie suffisant de ces femmes-là, ben. Puis en plus que cette loi-là, la loi sur la laïcité de l'État, elle ne répond pas à une urgence réelle qui met en péril la nation québécoise, etc. Puis en plus, ce n'est pas une loi qui est temporaire. Donc la loi sur la laïcité de l'État, elle est là pour toujours, à moins qu'un autre législateur, par exemple un nouveau gouvernement, dépose un nouveau projet de loi qui vient l'abroger. Mais elle n'a pas non plus ce caractère temporaire qui est exigé par le droit international.
Oui, c'est ça, là, si on parle un petit peu là, des prochaines étapes là, qui vont suivre, là, le document là, il a été déposé là, qui dénonce tout ça. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme retombée de ça? Ça serait quoi? À quoi on peut s'attendre là, pour comme l'encadrement de tout ça? Est-ce que c'est quoi la réception là, du gouvernement actuel? Bref, qu'est-ce que le futur nous réserve là, par rapport à ça?
Mm-hmm. Malheureusement, le gouvernement actuel, on voit sa posture par rapport aux clauses dérogatoires. Là. Il a dérogé à plusieurs fois déjà, en quelques années à peine, aux deux chartes, la Charte québécoise et la Charte canadienne. Et le projet de loi en ce moment, le projet de loi 1 sur la Constitution du Québec, qui vient faciliter puis banaliser encore plus le recours à la clause dérogatoire. Donc, je me permettrais de dire qu'on n'a pas des très hautes attentes par rapport au gouvernement actuel.
Okay.
Mais pour nous, parler de l'encadrement de la clause dérogatoire, c'est une façon d'informer le public, le grand public, de dans quelles circonstances on devrait pouvoir suspendre nos droits et libertés à nous, tous les Québécoises et Québécois. C'est une façon d'ouvrir des conversations sur ce sujet-là. Puis ça peut être aussi une opportunité, en fait, d'aller chercher des engagements clairs de la part des autres partis politiques.
Oui. Bien, merci beaucoup, Laurence Guénette, là, je rappelle, coordonnatrice et porte-parole de la Ligue des droits et libertés. Merci d'avoir un peu démêlé, là, c'est quoi une clause dérogatoire et son utilisation, là?